Chapitre 31, deuxième partie, l'empoisonnement du champ de vie humain. La lutte contre l'emploi des armes a atteint un dernier point culminant au début du XXe siècle. Cette lutte, qui allait dans le sens d'un certain humanisme et se ranimait périodiquement, s'enflamma pour la dernière fois. Elle ne cessa ensuite de s'affaiblir et les deux guerres mondiales l'éteignirent à peu près complètement. Mais en même temps, une autre flamme s'élevait très rapidement. C'était celle d'un autre aspect de la question, beaucoup plus funeste et effroyable. De nombreux jeunes gens adoptèrent l'idée qu'à notre époque, il n'y avait plus de place pour une vie noble et digne. Ils exprimèrent par leur comportement débridé ce qu'ils avaient appris, vu, entendu et subi. Le monde est devenu un monde de désordre, un monde de meurtre et de honte. Et la police mène une guerre continuelle contre ce chancre. La situation est devenue si grave que seule une infime partie des horreurs commises parviennent jusqu'à la presse. Cette déchéance rapide et forcenée est la conséquence directe des instruments de malheur que notre société fabrique consciemment pour préserver la paix. Vous comprenez que nous n'avons pas la moindre intention de porter ce sujet sur le plan politique, pas plus qu'au jour de Lao Tzu. C'est pourquoi nous voulons considérer cette sanglante blessure de l'humanité exclusivement du côté psychologique des choses et à titre d'exemple. Supposez que vous soyez employé dans une usine de canons, dans l'industrie de l'armement, industrie très courante à notre époque. Dans les bureaux sont assis les concepteurs-projeteurs et les nombreux dessinateurs qui tracent avec précision et jusqu'au moindre détail les plans des monstres de feu. Grâce à leur formation scientifique, ils calculent les effets, le rayon d'action probable, les moindres particularités, les diverses capacités exigées des bouches à feu. Ces techniciens finissent donc par s'en faire une représentation mentale élaborée. Aussitôt que leur travail s'achève, le produit qui en résulte est soumis à leurs supérieurs qui se mettent à étudier, calculer, vérifier, examiner et passer au crible toutes les caractéristiques et performances de l'engin, tout ceci sur la base de la même représentation mentale. Or, vous savez ce qui se passe dans un tel réseau de pensées. Il grandit de plus en plus, et ce monstre mental, vivant, plein de vitalité, devient énorme et très dynamique, acquiert un puissant rayon d'action, entretenu et vivifié qu'il est par une double équipe de cadres supérieurs. Rien n'est laissé au hasard, car de gros intérêts économiques sont en jeu. Quand l'arme en est au stade de la production, il faut alors concevoir et fabriquer des machines spéciales, transformer des usines entières, former du personnel, et tout cela coûte des millions. C'est pourquoi nulle erreur ne peut entacher un tel projet. Vous saisissez que cette représentation mentale atteint alors un summum de vitalité et répand autour d'elle une grande pestilence. Car ce monstre, c'est inévitable, est continuellement en train de frapper, dévaster, de faire la guerre, donc de souiller le champ de respiration de l'humanité. Et croyez-vous que ceux qui ont créé et vivifié cette image mentale l'abandonnent et l'oublient après leur journée de travail? Si vous le pensez, vous ne connaissez pas les cadres supérieurs. Dans une certaine mesure, ils sont psychiquement touchés. Ils ne peuvent plus se libérer du monstre mental. Ils sont dans un état d'aliénation mentale, sanctionné par la nature et la société. Ils sont d'ailleurs payés pour cela. Car tout homme est lié à ses propres représentations mentales et leur reste irrévocablement enchaîné. Il est donc évident que lorsqu'un de ces cadres rentre à la maison après son travail, même s'il n'en parle pas, car tout est très secret dans une telle industrie, il contamine toute sa famille par ce qui émane de lui et l'entoure. Ainsi, tous les membres des familles reliées aux équipes de cadres participe à l'extension du monstre. Et ce monstre dépasse très rapidement l'envergure de ces industries. Il devient un éon. Or, l'on sait qu'un éon peut empoisonner un peuple entier. Nous vous présentons cette affaire d'une façon encore très édulcorée, car dans notre monde, il n'existe pas qu'une seule fabrique de ce genre, mais toute une industrie de guerre où d'innombrables équipes d'ingénieurs empoisonnent complètement l'humanité par une vivante réalité de fumée, de feu et de sang. Voyez-vous comment l'humanité est victime de l'ignorance, victime des cadres, des équipes scientifiques, de ceux qui sont si savants mais ne connaissent pas l'unique nécessaire. Autour de vous, ce que vous êtes et ce que vous faites vous encercle. Et justement, tout ce que vous élaborez mentalement si vigoureusement est très vital, très vivant. Comprenez-vous maintenant pourquoi il est dit dans l'enseignement universel que 5 minutes de pensée inconsidérée peuvent anéantir le travail de longues années? Combien plus donc l'activité mentale scientifique quotidienne de certains cadres? Vous voyez donc maintenant clairement quelle calamité se répand sur l'humanité, quel empoisonnement de l'humanité s'est ainsi développé par ignorance. Comprenez-vous comment il se fait que, dans cette mer empoisonnée qui entoure l'humanité, tout doit avaler de travers, et que l'on peut appeler miracle le fait qu'il existe encore un groupe d'hommes qui ne soit pas entièrement descendu en dessous de la normale? Ne va-t-il pas de soi que, dans cette situation, la jeunesse dévie et montre déjà très tôt des traits qui ne sont plus tout à fait humains? Il y a aussi quelque chose de comique dans ce tragique. Les cadres, qui ont donc en réalité la direction de toute l'humanité, accourent pendant leur temps libre vers les pasteurs ou autres guides spirituels pour étudier avec eux ce qu'il faudrait faire pour élever le niveau de la jeunesse. Mais ce plan supérieur se trouve déjà dans l'atmosphère qui nous entoure. Les cadres font tout pour rendre inoffensif le poison qu'ils ont eux-mêmes fabriqué, l'explosion qu'ils ont eux-mêmes déclenchée. Percevez-vous que c'est justement ce sentiment erroné, ne reposant sur aucune base rationnelle, qui rend les choses encore pires? Et qu'en est-il maintenant du travailleur manuel, de l'homme de la masse condamné à concrétiser, à fabriquer tout ce qui est pensé? Mentalement, il n'est pas encore tombé aussi bas que le cadre. La corruption de ce qu'il y a de meilleur dans ce groupe est moindre que dans le premier. Le travailleur manuel, au point de vue mental, en est encore au stade du développement. Il est la victime, ou le devient. Il porte le karma du monde sur ses épaules fatiguées et courbées. Il est beaucoup plus malheureux qu'il y a quelques dizaines d'années, alors que la protection sociale était encore extrêmement imparfaite dans de nombreux pays et que l'on n'était pas encore aussi attentif à lui. Tous ces hommes sont victimes, et combien ? De la malédiction de l'ignorance des cadres appliqués scientifiquement. Telle est l'image de la misère actuelle où l'humanité a sombré comme dans un puits sans fond. Rien que ce seul aspect du comportement humain que nous venons de décrire serait déjà suffisant pour entraîner le suicide de l'humanité. Est-il alors insensé de présenter à votre réflexion ces paroles de Lao Tzu ? Les armes sont des instruments de malheur. Ce ne sont pas les instruments de l'homme noble. Celui-ci ne se réjouit pas d'en posséder, car cela voudrait dire qu'il aimerait tuer les hommes. Toute cette industrie, tout ce qui lui est annexe et tout ce qu'elle entraîne doit faire l'objet de cérémonies funèbres. La vie tout entière est une mascarade macabre. L'humanité, bien qu'encore vivante, a déjà été assassinée par l'ignorance de ses dirigeants. Elle est morte vivante, c'est un sépulcre, encore extérieurement quelque peu blanchi, mais rempli d'ossements. Ce qui, du temps de Lao Tzu, retentissait comme un avertissement sur une pente glissante est, en vérité, devenu maintenant une triste réalité. Une certitude absolue, comprenez-vous ? Donc, si vous voulez encore aujourd'hui tirer la leçon des paroles de Lao Tzu, tirez la leçon de l'état réel de l'humanité actuelle. Réfléchissez à ce qu'on peut encore faire pour échapper d'une façon entièrement nouvelle à cette mort vivante et pour être utile à l'humanité ignorante dans cette situation dangereuse. Vous ne pouvez pas vous contenter de parler. Vous ne pouvez pas vous contenter de vous démontrer mutuellement l'évidence de ces faits. Il y a déjà bien assez de bavardages comme cela. D'innombrables ouvrages qu'on pourrait empiler sur plusieurs mètres d'épaisseur sont pleins de protestations contre la science nucléaire. Cela représente une énorme quantité d'écrits. Cela n'a pas de sens. Les meilleures armes sont des instruments de malheur. Les dirigeants de l'humanité, dans leur ignorance, ont déjà tué celle-ci. Donc, encore une fois, si vous voulez tirer la leçon des paroles de Lao Tzu, tirez la leçon de l'état réel de l'humanité. À l'heure actuelle, beaucoup d'éminents scientifiques découvrent que les applications des découvertes de la science vont dans le mauvais sens. Et un grand nombre se réunissent pour tenter de détourner les dangers. Beaucoup de savants se sont regroupés sur le plan international pour protester. Ils voient clairement que tout va à l'envers et ils tentent maintenant de réduire à néant le réseau anarchique de leur pensée ainsi que son emprise sur l'humanité. Ils sont pour ainsi dire courbés sous le poids d'une grande peur. Mais bien qu'ils soient les premiers à savoir ce qu'ils ont déchaîné, si vous lisez leurs écrits, vous découvrez que leurs beaux ailes est complètement sans valeur. C'est comme s'ils criaient dans le désert. Ils renouvellent leurs appels depuis de nombreuses années, sans aucun succès. Certes, qu'ils soient saisis d'effroi est un signe favorable. Cela montre qu'ils ont découvert les conséquences de leurs activités, conséquences qu'ils tentent maintenant d'enrayer. Mais ils peuvent bien rayonner de bonté, leur action est absolument vaine, quoique ce soit un signe caractéristique. Un autre signe caractéristique est le fait que l'école spirituelle se porte vers l'humanité, qu'elle vient à vous pour vous assister dans vos éventuelles tentatives pour échapper encore au péril mortel. Cependant, celui qui le veut et le peut réellement doit alors se montrer radical, radical dans son comportement. Mais beaucoup y sont-ils prêts? Ceux qui le sont devront anéantir sur leur propre terrain les effets de la méchanceté qui se développe par ignorance. Il est exigé d'eux qu'ils attaquent le réseau de leurs pensées hautement dangereuses par leur rayon d'action. Il faut les supprimer. Il est donc nécessaire d'avoir un comportement radical si l'on veut servir l'humanité avant qu'il ne soit trop tard. Il s'agit donc de savoir si, en ce qui vous concerne, nous prêchons dans le désert ou si vous êtes prêt radicalement, aussi radicalement qu'à une autre époque les frères et sœurs manichéens, à appliquer ce comportement. Si nous trouvons un groupe suffisamment fort qui le veuille vraiment, beaucoup pourra encore être fait.